Parfait. Donc, je vais commencer par parler un peu du livre, puis ensuite, je vais inviter Jonathan, on va discuter pendant un petit peu de temps, puis on va s'assurer de garder du temps aussi pour questions-réponses, pour Jonathan, pour moi, ce qui vous intéresse. Donc, sans plus tarder, je vais parler un peu du livre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. La thèse principale du livre, c'est que le matérialisme ne fonctionne plus. Puis la crise de sens qu'a causé le matérialisme n'a pas non plus de raison d'être aujourd'hui. Surtout qu'une des justifications fréquentes que les gens donnent pour le matérialisme, en fait, c'est des arguments scientifiques. Ils vont dire « Ah, la science montre qu'on peut juste tout réduire à des particules, etc. » Puis, en fait, c'était une position qui, en science, pouvait se défendre d'une certaine façon au 19e siècle. Puis même un peu à travers le 20e siècle, au début du moins, il y avait moyen de faire ça. Mais c'est devenu progressivement de moins en moins tenable dans les sciences elles-mêmes. Mais ce n'est pas quelque chose que beaucoup de monde savent encore. Moi-même, j'ai été surpris là, en ayant un ami scientifique cognitif à qui j'ai parlé il y a quelques années. J'essaie d'attaquer un peu sa position parce que je pensais qu'il défendait une position qui était essentiellement matérialiste. Parlait de psychologie de façon intéressante, mais ce n'était pas clair que c'était autre chose que juste de la psychologie, disons, puis qu'il y avait une métaphysique derrière qui n'était pas ultimement matérialiste. Mais il m'a appris, puis j'étais surpris de voir que, notamment en sciences cognitives, mais dans beaucoup d'autres sciences, y compris en biologie, puis ça commence aussi en physique, les gens ne sont plus matérialistes, ils ont abandonné ça en fait. Puis spécifiquement, ils ne seront plus réductionnistes. Ils n'auront plus tendance à vouloir tout réduire à des entités plus petites pour essayer de tout comprendre. Puis bon, je vais essayer d'expliquer aussi pourquoi c'est important comme sujet, pourquoi ça a causé une crise de sens, ce matérialisme-là. Le symbole que j'aime utiliser pour parler de ça, puis je commence le livre avec ça dans l'introduction. Puis c'est sur la couverture aussi, là, vous pouvez voir, c'est la figure du zombie.
Ah, je pensais que c'était un ado.
Puis la raison pourquoi le zombie, c'est une bonne représentation du matérialisme et spécifiquement du nihilisme, c'est que si on fait les parallèles, on va voir qu'on utilise quand même le zombie pour nous comprendre nous-mêmes puis comprendre la crise de sens qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est pas spécifique aux zombies qu'on utilise une histoire pour comprendre notre situation. Là, on fait ça en général. On ne dépense pas des milliards de dollars chaque année pour créer des films puis des histoires puis tout juste parce que ça nous divertit. Il y a quelque chose qu'on va chercher là-dedans. C'est pas pour rien non plus que les enfants vont se déguiser en super-héros, qui vont vouloir lire des histoires, etc. C'est parce que quand on se met dans la peau de personnages des histoires, ça nous permet d'explorer certaines structures auxquelles on va faire face dans notre vie, puis on va trouver ça instinctivement intéressant. C'est quelque chose qui va nous intéresser. Fait que, il y a plein d'exemples classiques. Pourquoi est-ce qu'un enfant veut se déguiser en Batman, par exemple? C'est parce que la structure qu'il y a dans l'histoire de Batman, ça montre comment développer certaines vertus qui vont spontanément attirer les gens qui vont écouter ces films-là, l'enfant qui va se déguiser de cette façon-là, etc. Fait en général, les histoires qui ont capturé l'attention de beaucoup de personnes, c'est des histoires qui représentent des structures qui viennent nous chercher et qui sont utiles pour plein de personnes. Puis le zombie, c'est une créature qui est arrivée progressivement dans le 20e siècle puis qui a atteint un apogée autour de 2010-2015, devenue très, très populaire, justement où c'était comme un pic de crise de sens. C'est quelque chose, en fait, qui oscille encore. Là. Il existe toujours de temps en temps des nouvelles séries qui sortent sur les zombies qui reprennent plus d'attention, comme The Walking Dead, comme Among Us, des choses comme ça qui vont ressortir de temps en temps. Donc, on s'en sort pas. Mais pourquoi c'est arrivé ça, le zombie? Bon, il y a plein de parallèles, puis je ne les dirai pas tous, là, j'y vais plus en profondeur dans le livre, mais le zombie, c'est une créature qui est une parodie de sens. Il est en groupe avec plein d'autres personnes, mais il n'y a pas de communion avec ces personnes-là. Il fait plein de bruit, mais il n'est pas capable de communiquer du sens. Il n'a pas la capacité d'exprimer des paroles qui font du sens. C'est une créature aussi qui fait juste suivre ses passions. Veut juste se promener puis remplir son estomac parce qu'il n'y a pas rien de plus loin qui est capable de l'animer. Là-dessus aussi, le zombie va juste se promener sans but. Il va consommer des choses, mais il n'y a pas de direction où il s'en va. Puis il n'y a pas non plus d'endroit où s'arrêter. Les zombies sont des hordes qui se promènent, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça aujourd'hui, que ben, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis toutes les choses changent autour de nous, donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas vraiment où s'ancrer puis construire quelque chose de stable. Puis, un truc qui est intéressant avec le zombie spécifiquement, c'est qu'il mange des cerveaux. Puis le cerveau, pour un matérialiste, c'est la dernière place où il reste peut-être du sens dans le monde. Quand on est devenu matérialiste avec la révolution scientifique, où on essayait de tout réduire à des plus petites particules, ça fonctionnait pendant un bout de temps. Puis au début, c'était une entreprise qui était vraiment scientifique, puis confiné au laboratoire. C'est Galilée, en fait. Il y a quelques personnes qui ont fait ce genre d'argument-là, mais Galilée le dit très clairement. il voyait que les mathématiques lui permettaient de décrire plein de choses dans le monde matériel. Mais c'était surprenant parce que les mathématiques, il n'y a pas l'air d'avoir de qualité là-dedans. Tu n'as pas de bleu, tu n'as pas de texture, tu n'as pas de plaisir, de douleur, etc. dans les mathématiques. Mais on dirait qu'il pouvait expliquer des choses avec la physique dans le monde. Donc, il se disait, ça veut dire que le monde externe, s'il est vraiment décrit par les mathématiques, il ne doit pas avoir de qualité dans le monde externe. Le monde matériel à l'extérieur de nous doit être dépourvu de sens. Puis le sens, ça doit être juste dans notre tête. Le bien, le mal, les sensations, les couleurs, etc., ça doit être juste des impressions que nous, on calque par-dessus un monde matériel dans notre tête. Puis bon, ben ça a fait un chemin, ça a permis à Galilée et les scientifiques ensuite d'expliquer un paquet de choses. Mais ce qui a fini par se passer, c'est que ben en expliquant de plus en plus de choses autour avec le matérialisme, à un moment donné, on tourne ça vers nous-mêmes, puis on se dit, ben est-ce que je suis capable d'expliquer aussi mon corps, puis ultimement mon cerveau, puis mon esprit avec juste le matérialisme? Puis c'est un paradigme qui a guidé la recherche pendant un certain temps. Puis comme j'ai dit, il y avait des raisons comprenant pourquoi les gens se tournaient vers le matérialisme quand en ingénierie, ça portait plein de fruits, quand en physique, on découvrait plein de choses incroyables. Je comprends pourquoi les gens devenaient matérialistes spontanément. Mais ça a causé une crise de sens parce que là, on se demande, est-ce qu'on est juste des robots? Est-ce qu'on est juste des zombies? Si, par exemple, vous décidez de venir ici ce soir, si vous écoutez un matérialiste, il pourrait vous dire que tu as l'impression que tu es venu ici parce que tu voulais t'instruire, tu voulais discuter avec des gens, etc. C'est peut-être un objectif noble que tu penses que tu as dans ta tête, mais c'est pour vrai, c'est juste des particules qui suivent des lois qui bougent dans ton cerveau qui font que tu bouges de telle façon. Mais ce genre d'argument-là, ça mène à une crise de sens. Ben, dans le fond, on est juste des zombies qui n'ont pas vraiment de but, qui n'ont pas vraiment de relation avec les autres, etc. Donc, ça, c'est le problème que mon livre tente d'adresser. Puis comme j'ai dit plus tôt, en fait, il y a déjà des solutions parce qu'il y a des gens dans les sciences elles-mêmes, en fait, qui montrent que ce n'est plus un paradigme qui fonctionne. Essayer de tout réduire à ce qui est plus petit, ça ne fonctionne plus bien. C'est quelque chose qui est arrivé petit à petit. Le premier endroit où c'est arrivé, c'est sans doute en physique. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui veulent sauter trop vite aux conclusions qu'on parle de ça. Mais ce qu'on a trouvé en physique fondamentale au début du 20e siècle, ce n'était pas des particules stables comme le matérialiste espérait trouver. Ce que les réductionnistes espéraient depuis des siècles, c'était qu'en fouillant toujours plus profondément dans des entités de plus en plus petites dans le monde, puis en comprenant ça, on allait comprendre comment ça se compose en choses de plus en plus complexes. Puis ultimement, on va voir que ben, la chimie, c'est juste de la physique, puis la biologie, c'est juste de la chimie, puis la psychologie, c'est juste de la biologie, la sociologie, c'est juste de la psychologie, puis ultimement, tout est juste de la physique. Donc, c'était ça. C'était ça l'espoir, mais ça s'est effrité à plusieurs niveaux. En physique, ben, on a vu qu'il n'y a pas vraiment de particules stables au fond auxquelles on peut réduire les choses. Il semble avoir vraiment des probabilités. Il y a des gens qui essayent d'explorer d'autres interprétations qui seraient encore déterministes, mais c'est vraiment minoritaire. Là. La plupart des gens s'entendent pour dire que, OK, tu peux débattre de l'interprétation exacte, mais certainement, il y a des probabilités au niveau fondamental, puis ça, c'est pas ce que le matérialiste espérait. Il y a d'autres arguments en physique dont je ne parlerai pas, je parle plus dans le livre. Un autre domaine dont ça vaut la peine de parler, c'est en psychologie et en biologie. En sciences cognitives, c'est rendu assez commun maintenant de ne plus être réductionniste, matérialiste, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas si tu veux vraiment faire des choses qui marchent. Un domaine où c'est arrivé, notamment, c'était des ingénieurs en robotique qui voulaient faire des robots intelligents ou des programmes d'ordinateur qui peuvent reconnaître des images, par exemple. Puis ils se sont rendus compte que si tu essayes de concevoir ce genre de cognition-là comme simplement des manipulations d'électricité dans un programme que tu peux coder, puis ça va rester comme ça pour toujours. En fait, tu ne faisais pas beaucoup de progrès. Ce qui a fonctionné beaucoup mieux, c'était les gens qui essayaient de traiter les robots plus comme des créatures qui sont dans un monde, qui agissent, puis qui essayaient de faire émerger la cognition. Donc, en vision artificielle, c'est quelque chose qui est devenu très gros il y a 10-15 ans. Puis c'est le même genre de principe qui est utilisé aujourd'hui dans des choses plus complexes comme les Large Language Models, comme ChatGPT que vous connaissez tous. Mais l'idée, c'est que tu fais un genre de monde, que ce soit un monde virtuel pour ton petit robot. Tu y donnes une série de données entrantes, par exemple des pixels qui sont ordonnés dans un certain tableau, qui peuvent faire des images de chats, de chiens, de d'autres choses. Puis, tu donnes un réseau de neurones artificiels, que pour de vrai, c'est des matrices qui vont propager des probabilités de signaux entre différents niveaux de neurones artificiels. Puis, à la fin, ton robot peut dire une certaine réponse, comme c'est un chat ou c'est un chien, etc. Puis, à travers cette boucle-là, tu peux donner des images à ton robot, écouter sa réponse, puis renforcer ou punir ce qu'il vient de donner comme réponse en fonction que c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Puis, ce qui se passe, si tu répètes ça assez souvent, c'est que les gens vont parler d'émergence. Puis de l'émergence, ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu peux réduire à quelque chose de plus petit, de propriété irréductible, comme la perception des chats, la perception des chiens dans des robots. Là, on n'est pas encore dans des humains de chair avec un homme, etc. Mais ça fait quand même que les gens en sciences cognitives ont arrêté de chercher à tout réduire à un programme ou à des neurones, par exemple. Il y a des choses qu'il faut considérer au niveau d'un agent incarné dans un monde qui agit. Puis s'il agit pas ou si le monde change, il va falloir qu'il fasse cet apprentissage-là à nouveau. Donc, il y a un couplage réel que les gens vont reconnaître entre le monde et l'agent cognitif. Donc, ça, c'est en sens cognitif. Il y a d'autres choses en biologie dont je parle dans le livre, mais je ne parlerai pas ce soir. Ce que je veux dire avec ça, brièvement, pour donner une idée du livre, c'est que ce genre d'argument-là fait que des gens en sciences cognitives, puis en physique aussi, vont ramener spontanément la philosophie ancienne pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, Heisenberg, un des fondateurs de la physique moderne, a rappeler Aristote pour comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de la physique fondamentale. Il y a des aristotéliciens aujourd'hui en sciences cognitives puis en biologie qui utilisent les idées de causes formelles pour comprendre comment des structures au niveau de l'agent complet ont un impact irréductible sur les structures plus basses. Donc, spontanément, c'est des choses qui reviennent. Ou en sciences cognitives, il y a des gens qui font des arguments platoniciens pour expliquer pourquoi c'est pas possible de donner une théorie réductrice de la cognition. C'est drôle, j'explique dans le livre, mais c'est le même genre d'argument que Platon donne. Si vous lisez Platon, souvent les gens essaient de réduire une vertu ou la rationalité ou un autre attribut humain complexe à quelque chose de plus simple. Puis là, systématiquement, ce que Socrate fait dans les dialogues, c'est qu'il va montrer que la personne se contredit d'une certaine façon, puis là, les gens sont bien ennuyés. Mais au final, ce qui se passe toujours, puis c'est ça qui revient en sciences cognitives modernes, c'est que si tu essaies de réduire la rationalité à quelque chose de non rationnel, tu vas toujours finir par faufiler à quelque part un agent rationnel qui fait le travail pour vrai. Donc, ça fait que Platon revient en sciences cognitives aujourd'hui. Donc ça, c'est, je dirais, la première partie du livre. J'explique, OK, on est dans une crise de sens à cause du problème du matérialisme. On est devenus des zombies à cause du matérialisme. Je comprends pourquoi les gens étaient matérialistes au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Par contre, aujourd'hui, si tu t'appuies sur les sciences pour être matérialiste naïvement, tu n'as plus besoin de faire ça. Il n'y a plus de bonnes raisons d'être matérialiste en sciences. Tu devrais au minimum être un platonicien, un aristotélicien, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première partie du livre. Puis ensuite, la deuxième partie du livre, j'essaie de faire le pas pour montrer que Le christianisme permet de répondre encore mieux à certains problèmes qui sont laissés encore ouverts dans la tradition classique. Puis, au lieu d'aller dans les détails de ça, pour ne pas prendre trop de temps, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus si vous voulez en savoir plus aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que la figure du zombie qu'on utilise pour comprendre notre crise de sens, ce n'est pas juste une créature qui explique la crise de sens matérialiste, nihiliste dans laquelle on est aujourd'hui. C'est aussi une créature spécifiquement qui parodie le christianisme. Donc, on peut dire que c'est un symbole d'une culture qui a perdu son christianisme. Parce que si vous regardez des zombies, c'est des êtres ressuscités, mais la vie à laquelle elles ont accès, ce n'est pas la vie éternelle pleine de sens qu'on promettait à l'Occident dans le christianisme. Ce que les gens craignent voir à cause du matérialisme, c'est un monde où on a peut-être toutes les ressources matérielles, puis on est comme en vie d'une certaine façon. Peut-être avec le transhumanisme, on va rester vivant pendant des milliers d'années, mais dans le fond, on va être juste des zombies qui suivent nos plaisirs, puis ça va être vide de sens, ce monde-là. Une autre façon de le voir, c'est les parallèles entre la liturgie chrétienne puis les liturgies de zombies. D'ailleurs, c'était un phénomène qui se passait, je pense que ça a été beaucoup cassé par la COVID, on verra si ça recommence, mais des gens organisaient des grosses marches de zombies. Dans certaines villes, il y avait des dizaines de milliers de gens qui se déguisaient en zombies puis qui faisaient des processions de zombies. C'est une genre de liturgie de la fin du monde. Puis c'est intéressant de voir que c'est un parallèle, c'est une genre de moquerie inconsciente. Je pense pas que la plupart des gens se rendent compte de ce qu'ils font, mais c'est le genre de liturgie que les gens font quand ils croient plus au christianisme, parce qu'ils imitent justement des créatures vides de sens, sont en fausse communion avec plein de gens, parce qu'ils vont comme ensemble, mais ils n'ont pas de communion ensemble, ils vont pas dans un but commun. Ils n'ont aucune gratitude non plus. Eucharistie, ça veut dire, je me rappelle plus l'étymologie exacte, mais c'est relié comme ingratitude, le sacrifice d'ingratitude, quelque chose comme ça. Puis, le zombie, il n'a aucune gratitude. Lui, il veut juste dévorer tout les autres personnes autour de lui sans jamais être satisfait. Une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'au lieu de chanter, il grogne, bon, etc. Je pourrais continuer pendant longtemps, puis j'en parle dans le livre, il y a plein de parallèles. Mais ça veut aussi dire que, en fait, dans le mythe du zombie, on peut aussi voir comment il y a une solution spécifiquement chrétienne que tu ne vois pas dans d'autres genres de mythes. J'ai fouillé quand même pas mal là, sur l'histoire de zombies, puis je ne pense pas qu'il y ait d'autres cultures vraiment qui offrent ce genre de solution-là. Dans le christianisme, vu que l'Eucharistie, puis dans la liturgie spécifiquement, on a Dieu qui vient s'offrir aux zombies, se faire dévorer par les zombies. Il y a un genre de piège là, qu'on vient poser. On peut le voir au niveau mythologique parce que même dans l'histoire de zombies, comme peut-être la plus célèbre qui fait ça, ça s'appelle Warm Body. C'est un livre qui est sorti en anglais qui est devenu un film ensuite. En français, je pense que c'est Zombies malgré lui. Puis là-dedans, le personnage principal est un zombie qui redevient progressivement à la vie par amour pour une humaine. Puis, il y a comme une genre d'attirance. C'est pas encore l'amour chrétien classique agapé, mais il y a un genre d'attirance comme vers l'autre qui va progressivement le ramener à la vie. Puis, à la fin, c'est fait de façon narrativement convaincante, de façon à ce que ça semble tout à fait naturel, puis les gens font pas de parallèle spécifiquement avec les christianistes, je pense, dans ce livre-là. L'auteur, en fait, je l'ai déjà lu écrire certaines choses assez anti-chrétiennes, mais il y a des structures super chrétiennes dans le livre, pareil. La façon dont le héros retourne à la vie dans le film, c'est que il va se sacrifier pour la fille avec qui il tombait progressivement en amour. Il va comme tomber puis se faire tirer dessus pour essayer de la protéger en pensant qu'il va simplement mourir. Puis en fait, il tombe dans l'eau là, comme un genre de baptême. Puis en fait, quand il va remonter à la surface, bien, il va saigner pour vrai du vrai sang d'humain qui est en vie. Puis là, il va survivre, mais on va voir que c'est parce qu'il s'est donné à une autre personne qui est revenu à la vie. Il a fait le contraire de ce qu'un zombie fait. T'sais, au lieu de juste considérer les autres pour ce que tu peux faire pour toi-même, pour consommer d'autres personnes pour ton propre bien, il a appris à se donner à d'autres personnes. Puis c'est comme ça qu'il a tissé des liens, au lieu d'être juste parallèle avec des gens autour de lui, là, puis refaire une communauté de gens qui s'aiment puis qui ont du sens dans leur vie. Donc, je pense que les gens voient déjà dans la culture que la solution réelle au problème des zombies, c'est quelque chose comme ça. Sinon, d'ailleurs, c'est très pessimiste. Là. La plupart des films de zombies, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Là. C'est juste que tu essaies de survivre, puis à un moment donné, tu meurs. Parce que si tu penses qu'il n'y a pas de solution au nihilisme, si tu penses que le matérialisme, c'est vrai, bien, c'est sûr que c'est là que tu t'en vas. Mais je pense que tu peux voir dans la culture qu'il y a des tentatives d'aller vers une solution chrétienne au problème. Puis là, il faudrait que quelqu'un écrive l'histoire vraiment authentique de quelqu'un qui décide de devenir un saint et qui se donne aux zombies pour détruire les zombies. Quelqu'un qui va détruire la mort par la mort, comme Jésus l'a fait. Mais on peut voir que l'histoire de Jésus est vraiment un antidote pour le problème des zombies. Bien, ça veut dire aussi que c'est un antidote pour notre crise de sens aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour le résumé du livre que je voulais faire. N'hésitez pas à prendre une copie. Je vais être là derrière avec, si vous voulez m'en parler plus, si vous voulez en acheter. Puis, je vais inviter Jonathan, qui est le propriétaire de la maison d'édition qui a publié le livre. Vous connaissez sans doute Jonathan. Il est assez connu comme intellectuel public, comme auteur, comme artiste. Puis, ben, on va discuter un petit peu du livre puis de la crise de sens au Québec. Merci.
Moi, la première chose que
je pense qu'il n'y a pas de son encore. Non.
Bon? Oui, ah oui. La première chose que je veux faire, c'est premièrement remercier Jean-Philippe d'avoir écrit. Tiens,
vas-y.
D'avoir écrit son livre parce que, tu sais, moi, je fais des vidéos sur YouTube. Tu sais, j'écris un peu, puis tu sais, je parle beaucoup, puis je prends beaucoup de détours, puis j'utilise beaucoup d'images, puis je suis très, tu sais. Je fais beaucoup de gestes, tout alentour des questions. Puis, quand j'ai rencontré Jean-Philippe, une des choses qui m'a impressionné de lui tout de suite quand j'ai rencontré, c'était sa capacité de vraiment capter les choses de façon élégante, puis de pouvoir argumenter, arriver directement à l'argument. Puis c'est exactement ce qu'il a réussi à faire dans son livre. Dans le fond, c'est qu'il a vraiment été capable d'écrire. Tu sais, je veux dire, le livre, il n'est pas très long, là. Mais tu sais, il nous donne vraiment une belle vision, tu sais, post-réductionniste, une vision qui amène le sens, qui nous ramène le sens, puis il le fait d'une façon extrêmement élégante puis extrêmement, comment je pourrais dire, où l'argument, il apparaît vraiment rapidement. Fait que je suis très content. Moi, nous, on était vraiment heureux de pouvoir publier son premier livre, puis on sait que c'est vraiment une clé, tu sais, pour des gens, si vous connaissez des gens qui sont avalé par le scientisme, on pourrait dire, tu sais, qui ont l'impression qu'on est juste des machines ou qu'on est juste des robots, dans le fond, qui suivent notre biologie. Tu sais, c'est difficile de contrer l'argument que Jean-Philippe fait. Alors, félicitations et merci d'avoir fait ça.
Merci. Mais ouais, ça vaut la peine de le dire. J'écris le livre beaucoup pour les gens qui étaient où j'étais il y a 10 ans, disons, qui ont une éducation scientifique. Puis quand tu es au secondaire, tu n'apprends pas ce qui se passe de la science de la fin du 21e, la fin du 20e siècle. Tu apprends les débuts, là, à l'époque où les gens étaient tous matérialistes. Donc, c'est facile d'hériter un genre de matérialisme puis de penser que c'est ça la science. Puis il y a un travail à faire présentement, là, ce travail pour nous tous, là, à vulgariser puis expliquer que c'est plus une bonne vision de la science. Puis il n'y a pas de raison d'être matérialiste puis nihiliste à cause de ça. Puis même, je dirais, j'ai essayé d'écrire le livre de façon brève, là, comme Jonathan a dit, parce que je sais que pour ce genre de public-là, où j'étais il y a 10 ans, d'avoir quelque chose qui est succinct puis écrit presque comme des preuves mathématiques, c'est exactement le bon genre de format. Si, disons, quelque chose est, je sais pas, trop poétique, trop large, pas clair, c'est le genre de choses qui m'auraient tout de suite découragé de ce livre-là, puis j'aurais eu de la misère à le prendre au sérieux. Donc, j'essaie de prendre quelque chose qui va plaire à un public qui est scientifique, puis aussi, j'essaie de garder la longueur assez courte pour que les gens ne soient pas découragés de le lire non plus.
Ouais, moi, une question que j'aimerais, tu sais, que tu puisses explorer devant les gens, parce que je connais déjà la réponse, mais je pense que c'est important, c'est que il y a un aspect un peu personnel aussi à l'imagerie, tu sais, du zombie, puis à l'imagerie de comment il a amené l'histoire du zombie dans le contexte du livre. Que c'est, oui, c'est un argument qu'il fait, mais il y a quelque chose pour lui qui était très existentiel dans son propre cheminement. J'ai l'impression que tu as raconté un peu cette histoire-là pour les gens. Ça leur donnerait un peu de contexte pour saisir là, pourquoi tu es arrivé à écrire ce livre-là.
Oui, ouais, c'est bon. Ouais, j'en parle pas souvent là, parce que c'est un peu...
Mais tu es à l'aise.
Non, mais je suis à l'aise, c'est juste... Faudrait que je réfléchisse pourquoi j'en parle pas plus souvent. Mais pendant que j'étudiais... Bon, j'ai pas le choix de reculer un petit peu, là, mais justement, j'avais une éducation scientifique assez standard, secondaire, cégep en sciences nature. Après ça, j'aimais beaucoup la physique, les maths, l'informatique théorique, la logique formelle, etc. J'étais allé faire un bac en maths info. Puis je continuais à faire de la physique sur le côté. Puis j'étais très matérialiste dans ma vision du monde. Puis là, je voyais que... Bon, ben, si c'est vrai, on est juste des particules, puis il n'y a rien qui fait du sens. Fait que ça va peut-être la peine, j'y pense, là, tout d'un coup, que je me trompe. Fait que j'étais allé faire une maîtrise en philo après ça. Puis, justement, ce que j'ai décidé d'attaquer dans ma maîtrise, c'était est-ce que le matérialisme est vrai ou est faux? Parce que ça vaut la peine que je le sache. Si jamais le matérialisme est faux, puis que ma vie a un sens, ben, il faudrait que je le sache, puis je ne fasse pas juste n'importe quoi, là, comme un matérialiste. Puis en plus, si tu es matérialiste, nihiliste, tu n'as littéralement rien à perdre. Hein? Tu sais, il n'y a rien qui fait du sens, fait que. T'sais, si, je sais pas, tu vas perdre plusieurs années de ta vie à faire de la philo, ben, c'est pas vraiment perdu parce que tout est perdu de toute façon. Fait que, il y a vraiment comme rien à perdre à aller faire ça. Fait que je suis allé faire une maîtrise en philo où je travaillais sur le matérialisme puis le nihilisme de façon, t'sais, académique assez standard pendant le jour, je dirais. Puis, ce qui s'est passé, j'avais aucune idée du symbolisme à l'époque, là, c'était avant qu'on se connaisse. Spontanément, à un moment donné, je me suis mis à avoir des rêves de zombies la nuit. Où je rêvais que je me faisais attaquer par des zombies, c'était une apocalypse de zombies. Puis à un moment donné, c'est devenu comme sans arrêt. Là. À toute la nuit, je me couchais, puis quand je commençais à rêver, là, j'avais juste des rêves de zombies. Puis en fait, il y en avait tellement que ça sonne pire que c'était. Là. En fait, ce qui se passait, j'en avais tellement souvent que je savais que c'était dans le fond juste un rêve, puis j'allais me réveiller après. Fait que, en fait, je voulais pas me réveiller. Là. Fait que ce qui se passait, je suis arrivé à un point où, mettons, j'arrive dans une histoire de zombies, là, j'essaie de résister pendant un bout, faire des trucs, puis. Après, à un certain moment, ben, je me fais capturer par les zombies, je vais mourir. Ben là, tout de suite, je tombais dans une autre histoire de zombies. Je mourais pas, je me réveillais pas, je comme passais tout le temps à la prochaine. Puis ça arrêtait pas, puis ça a duré peut-être un an environ, je dirais. Là. Moi, je pensais que c'était... J'avais lu un petit peu Freud là avant, fait que je me disais que c'était un truc de, je sais pas, d'agressivité réprimée, quelque chose comme ça. Mais j'en faisais pas encore trop de cas parce que je prenais pas encore le symbolisme au sérieux, je connaissais pas ça. J'étais matérialiste, fait que pourquoi j'aurais pris ça au sérieux? Mais ce que j'ai remarqué qui était intéressant, c'est que quand, progressivement, j'apprenais des morceaux pour briser le matérialisme, ben les rêves de zombies arrêtaient. Fait que, puis arrêtaient progressivement. Donc, la première clé, ça a été à la fin de ma première année de philo, où j'avais appris des arguments très clairs contre le matérialisme. Puis je voyais, OK, au minimum, le matérialisme, c'est pas vrai. Je suis pas encore sûr c'est quoi la bonne solution. Là. Pour les curieux, à l'époque, je tendais vers le panpsychisme, des gens qui pensent que la conscience, dans le fond, est partout, tout est conscient à une certaine échelle. On pourrait en reparler plus, là. Mais... juste ça, de voir que, OK, clairement, le matérialisme est faux, je suis pas sûr c'est quoi la bonne solution, ben ça a coupé mes rêves de zombies de 90% environ. Puis, après ça, c'est pas fini, là. Tu peux être encore en crise de sens, même si t'es pas matérialiste, là. T'sais, peut-être que tout est conscient, même les particules, les cellules, etc., mais il y a quand même pas de but à l'univers, puis il y a pas vraiment bien puis de mal, là. Peut-être qu'on fait juste comme essayer de survivre, puis à un moment donné, on meurt, là. Il y a des gens qui croient des choses comme ça. Donc, il me restait encore un peu nihilisme, encore de rêve de zombie. Puis, après ça, en voyant que la philosophie ancienne avait une éthique de la vertu qui faisait du sens aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, si ça vous intéresse, il y a des gens en psychologie morale, notamment, qui étudient la façon dont notre moralité se développe. Puis, ça semble être essentiellement ce que Platon et Aristote disaient. On développe des vertus en les pratiquant, puis c'est des structures qui existent, qui ne sont pas réductibles, etc. Donc, ça aussi, ça coupait encore les rêves de zombies. Puis c'est à ce moment-là, à peu près, que je commençais à entendre parler de Jonathan, à cause de Jordan Peterson. Puis là, on avait eu quelques... Dès que tu as ouvert un compte Patreon où on pouvait te supporter, j'ai commencé à te supporter, on a eu quelques conversations, on est devenus amis. Puis, à un moment donné, mes rêves de zombies étaient pas mal partis, là. Puis, mais je m'étais pas encore reconverti au christianisme. Je m'en allais vers là, mais c'était pas encore complètement fait. Puis, je dirais que j'étais assez convaincu à une éthique de vertu, puis j'étais plus matérialiste, etc. J'étais encore panpsychiste. Mais je me disais que peut-être qu'il y a un moyen de régler le problème des zombies à l'intérieur de la mythologie du zombie lui-même. Fait que, moi, j'avais l'impression que j'étais déjà heureux, là, honnêtement. C'est de pas être matérialiste, nihiliste, puis avoir une éthique de la vertu, c'est déjà vraiment mieux. Donc, je me sentais déjà bien, puis je n'étais pas comme désespéré pour trouver une autre solution, mais je me disais, au moins par curiosité, est-ce qu'il y a une solution au problème des zombies? J'avais déjà entendu d'autres histoires comme ça, d'ailleurs, là, je n'étais pas complètement original. Donc, si tu as un genre de rêve qui te revient souvent, ça vaut la peine d'y penser puis de trouver la solution à ça. Puis après, le cauchemar va être fini. Puis ça risque d'adresser un problème réel dans ta vie aussi. Parce que sûrement que tu rêves, comme je parlais des histoires tantôt, là, on fait des histoires, on écoute des films parce que ça nous aide à résoudre des problèmes dans notre vie. Bien, si tu rêves tout le temps la même chose, il y a sûrement un problème là aussi. Comme moi, je rêvais tout le temps du nihilisme parce que dans le jour, je travaillais tout le temps sur le nihilisme. Bien, là, j'en ai parlé à Jonathan, parce qu'on se parlait de temps en temps. Puis j'ai dit, bon, mettons, toi, tu étais dans une histoire de zombies. C'est quoi la solution pour vrai? T'sais, mythologiquement, c'est quoi la solution? Puis là, on en a parlé, puis à la fin de notre conversation, on avait justement trouvé la solution que... Parce que, tu sais, dans le fond, on va se le dire, là, c'est tout le temps Jésus la clé de tous les problèmes mythologiques. Là. Si tu creuses assez, tu vas voir que, tu sais, tous les héros trouvent leur solution dans Jésus. Fait que, ben, c'est un peu un cheat code. Là. Tu réfléchis. Qu'est-ce que Jésus ferait dans une apocalypse de zombies, mettons? Ben, ça va sûrement régler ton problème. Fait que, c'est de la même façon que Jésus s'est laissé... tué par nous pour nous faire rentrer dans son histoire, nous montrer nos péchés, mais après ça, nous sauver puis nous amener à une autre vie vertueuse, ben il ferait ça avec des zombies aussi. T'sais. Il se laisserait tuer par les zombies. Puis comme j'ai dit, même dans l'Eucharistie, on fait ça. Là, comme c'est quand même évident. Puis la façon dont ça va se passer pour vrai, c'est pas que nous, on dévore Jésus. C'est que, ben oui, on dévore, mais il nous dévore en même temps que nous, on le dévore. Saint-Augustin avait écrit quelque chose comme ça, d'ailleurs. Là. C'est quand on dévore, quand on mange l'Eucharistie, oui, on mange Dieu, mais c'est Dieu qui nous mange aussi. Il nous fait rentrer dans son corps puis il nous intègre dans l'Église. Donc, je pense que c'était ça, la solution aux zombies. Puis là, ce qui était drôle, c'est que après qu'on ait parlé de ça, j'ai plus eu de rêve de zombies. C'était fini. Puis c'est plus à ce moment, autour de ce moment-là que je me suis définitivement converti. J'ai recommencé à aller à l'Église, etc. Puis ben, c'était comme un bon clin d'œil là, pour dire, OK, t'as vraiment la solution au problème des zombies puis au nihilisme dans le christianisme. Mm.
C'est pas pire quand même, hein? C'est drôle.
Mais ça, j'en parle pas trop souvent, mais ben, je veux pas comme avoir l'air, je sais pas, d'un prophète là, qui a des rêves, des songes.
Finis. Ouais, c'est ça. faut que ça soit moi qui dise, il y a un saint prophète qui a des rêves.
mais j'ai aussi une question pour toi, Jonathan. Ouais. Tu sais, là, on écrit le livre en anglais parce que l'histoire de Jonathan, initialement, il est beaucoup anglophone. Puis je travaille sur quelque chose en français, d'ailleurs, là, mais ça risque de prendre encore un peu de temps pour des raisons logistiques. Mais là, on est deux Québécois aussi, là, même si on a sorti un livre en anglais à une maison d'édition qui est au Texas. Mm-hmm. Mais je demandais, tu sais, qu'est-ce que tu penses de la crise de sens spécifiquement au Québec puis le rôle qu'on peut jouer?
Oui, bien, c'est ça. C'est qu'on voit qu'il y a une transformation qui se passe un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, on le voit fortement. On pourrait dire que le mouvement athée est terminé. T'sais. Puis je pense qu'on peut le dire assez fermement. Au moins, les gens qui étaient très agressifs, les athées qui étaient très agressifs aux États-Unis, ils sont sur le recul, ils sont sur la défensive. Ils n'ont plus la maîtrise là, du discours contemporain. Ce qu'on voit, c'est en fait un retour au christianisme dans la classe intellectuelle aux États-Unis. Les gens qui sont disons, à la pointe de ce qui se passe au niveau culturel, c'est des gens qui se convertissent surtout au catholicisme et à l'orthodoxie ou à des formes de christianisme plus traditionnelles. Vous le voyez, là, je veux dire, aux États-Unis, J.D. Vance, que vous l'aimez ou non, c'est un exemple de quelqu'un qui est vraiment à la pointe et politique et culturelle, intellectuelle, qui s'est converti au catholicisme. Lui, c'est juste un exemple, mais il y en a plein. Là, on a Peter Thiel, on a plusieurs personnes dans ce monde-là. Puis donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu inévitable, surtout si on est croyant. Ça marche pas le sécularisme, ça marche pas l'athéisme, c'est vraiment, ça mène à la fin, ça mène à des gens qui n'ont plus d'enfants, ça mène à des gens qui n'ont plus de valeur, ça mène à une société où les gens ne sont plus ensemble, où ils sont juste des éléments fragmentés sur un tableau, là, ils n'ont plus que de connexion. T'sais, au Québec, on a eu notre petit moment nationaliste. T'sais, on a dit, on n'a pas besoin de l'Église, on a juste besoin du français. Puis ça a duré une génération, et c'est terminé. Parce que, en fait, les choses qui nous rallient ensemble, c'est pas la langue. Oui, c'est important la langue. C'est pas l'identité nationale. Oui, c'est important l'identité nationale, mais il faut avoir quelque chose de plus haut qui nous tient ensemble. T'sais, sinon ça fait juste se fragmenter. Puis je pense qu'il faut être prêt. T'sais, les gens qui sont ici, Jean-Philippe, je vois un peu un renouveau dans la ville de Québec. On le sent, il y a comme un foisonnement qui commence. Puis moi, je pense vraiment là, que les gens qui sont ici, puis ces gens-là, ils sont vraiment la pointe de la transformation culturelle. Pis on voit pas les fruits encore. Mais ça va venir, comme c'est arrivé aux États-Unis, comme c'est en train de se passer en France, comme dans certains endroits en Europe aussi, c'est en train de se passer. Ça va être ici au Québec. Puis je pense vraiment que c'est comme ça qu'on doit voir la situation. Puis c'est comme ça qu'on doit se voir aussi. C'est-à-dire, tu sais, j'ai 50 ans. T'sais, moi, j'ai grandi dans un monde où on a tellement dénigré le christianisme, on a tellement dénigré la croyance en Dieu. T'sais, on nous a fait penser qu'on était des imbéciles, que c'était de la superstition, que c'est ridicule, que c'était le passé et tout. Mais la vérité, en fait, c'est que c'est tout le contraire. C'est vraiment la seule avenir possible pour la société. Puis il faut commencer à penser comme ça. Il faut arrêter d'avoir honte, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de reculer, de penser que, tu sais, je vais je vais avoir l'air d'un imbécile si je dis les choses qui sont vraies par rapport à la foi puis ce qu'on croit. Non, c'est le contraire. Parce que là, les jeunes, en ce moment, ils sont inondés de divertissement, ils sont inondés de... Ils ont tout ce qu'ils veulent, puis ils sont extrêmement malheureux. Tu sais, on est arrivé à la fin de la Révolution tranquille, là. Ça y est, là. T'sais, vous avez les fruits de ce que vous nous avez proposé dans les années 60-70. On les a, les fruits, maintenant. On peut les évaluer. Puis je pense qu'on a la capacité, maintenant, de carrément répéter les choses que les prêtres disaient quand la Révolution tranquille se préparait. Toutes les choses qu'ils ont dit, c'était vrai. T'sais, toutes les choses qu'ils ont dit que de pourchasser les biens matériaux, ça mène pas à la satisfaction. Que de pourchasser le plaisir sexuel, ça mène pas à la satisfaction. Savez-vous, on le sait maintenant. Si on pourchasse le plaisir sexuel, ça mène à quoi? Ça mène à l'abolition de la sexualité. T'sais, les statistiques sont incroyables aux États-Unis. Les jeunes n'ont pas de relations sexuelles. Ils sont juste devant l'écran, devant de la porno. Ils n'ont plus de relations sexuelles. On voit ça. La sécularisation, ça mène à l'abolition de la sexualité. Les dernières statistiques aux États-Unis, ils démontrent que les gens qui ont plus de sexualité, c'est les couples religieux mariés. C'est eux qui ont le plus de sexualité. Puis là, je veux dire, quand les prêtres nous auraient pu nous dire quelque chose comme ça, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, on n'avait pas les preuves. Je veux dire, ils avaient raison. Mais là, on les a, les preuves. On le sait à quoi ça mène, ce qu'ils nous ont promis dans le refus global. Là. On sait à quoi ça mène. Alors, je pense que c'est le temps de prendre confiance dans ce qu'on sait qui est vrai, d'être capable de le dire simplement, de le dire. On n'a pas besoin d'être agressif, on le dit avec amour, on le dit, mais avec la confiance de savoir que c'est vraiment la seule possible futur pour la société québécoise, pour toutes les sociétés, mais dans notre cas, pour la société québécoise. Fait que, désolé pour mon petit speech.
Non, c'est bon, c'est exactement le genre de choses que je voulais que tu dises. Relié à ça aussi, les gens vont expérimenter de différentes façons les échecs de la sécurisation au Québec. Mon livre s'adresse surtout aux gens qui sont matérialistes à cause d'un matérialisme naïf qu'on adopte avec la sécurisation. Il y a d'autres choses, par exemple, que les gens peuvent avoir comme problème. Puis, mon livre, d'un côté, il y a la mythologie du zombie, mais il y a aussi des arguments philosophiques puis scientifiques assez standards, académiques, pour justement aider les gens qui ont plus une approche scientiste. Mais il y a d'autres approches aussi. Je sais que toi, tu prends beaucoup l'approche narrative. Oui, tu fais beaucoup de vidéos, tu fais connaître en expliquant les choses, mais là, tu vois qu'il y a une ligne d'attaque narrative avec, comme, en racontant des bonnes histoires.
Oui, oui. Oui, ça honnêtement, je crois que c'est peut-être la meilleure ligne d'attaque en ce moment, c'est-à-dire les histoires qu'on nous raconte, les histoires qui sont dans la culture en ce moment, elles sont, premièrement, elles ne sont pas intéressantes. Deuxièmement, ils sont capturés de façon idéologique. C'est-à-dire qu'il y a, comme une sorte d'idéologie derrière la façon dont on raconte l'histoire dans nos films, dans les livres pour enfants, dans même la façon dont les jeunes, on leur raconte l'histoire dans les écoles. Tu sais, je veux dire, mes enfants, ils ont passé toutes leurs années du secondaire à entendre l'histoire du Québec à chaque année, puis ils savent rien. Pourquoi? Parce que les gens qui leur disent l'histoire détestent l'histoire qu'ils racontent, en fait. Ils veulent pas la raconter. Ils mettent des faits ensemble, un après l'autre. Il n'y a aucun sens de personnage. Il n'y a aucun sens de vertu. Il n'y a rien. Tu sais, je dis, on a une opportunité incroyable en ce moment, même au Québec, de raconter les histoires de nos saints, les histoires des fondateurs, avec tout, avoir aucune honte de leur foi, avoir aucune honte. Parce que, en fait, c'est ça qui va briller dans l'avenir. Ça va être rough au début, je vous avertis. Mais c'est la seule chose qui va briller dans l'avenir. Tu sais, je veux dire, l'histoire de Samuel de Champlain qu'on nous raconte est tellement écorchée, il reste rien de son caractère, il reste rien de sa foi, il reste rien de toutes les choses incroyables qu'il a fait. Tu sais, pourquoi pas la retrouver, ça, tu sais? Puis le raconter à nos enfants pour qu'ils aient vraiment un sens de qui ils sont, tu sais, réellement. Puis pas juste des faits, puis des guerres, puis des trucs, ils savent rien de notre histoire.
Parfait. Donc, là-dessus, je voudrais laisser la place aux gens qui voudraient poser des questions pour Jonathan, pour moi, sur le livre ou sur autre chose qu'on a dans nos travaux. Donc, peut-être juste dire votre question, mais ça, je vais la répéter pour le micro, la caméra. Oui, Benoît? OK. Benoît demande s'il y a un temps spécifique pour la version francophone. La réponse, c'est non. Ça a un temps indéterminé. Là. Attends, je sais pas, 1-2 ans peut-être, là, mais c'est vraiment pas certain encore. Là. Simon?
Tu dis que ton livre s'adresse principalement à des gens qui ont mandaté scientifique matérialiste, puis que bon, le christianisme peut apporter une réponse à ces gens-là. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui se diraient pas purement athées ou matérialistes, mais il y a un être suprême, ça va. Sont peut-être même capables de le nommer. Et quand ils rentrent dans le christianisme, l'Eucharistie, la Trinité, l'incarnation, les anges, ça semble justement mythologique, ça semble enfantin, ça semble pas assez rationnel. Donc, ils vont dire oui, Dieu, une sorte de déisme, qu'on pourrait dire, mais le christianisme, ça semble, c'est ça, ne pas correspondre au rationalisme de notre époque. Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
Oui, ben, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être pour commencer, la façon dont je fais l'argument pour le christianisme, je pense que ça fonctionne pour ces gens-là aussi, c'est justement de montrer que, disons, que la façon dont on comprend le monde techniquement le mieux, le mettons de façon naturelle au niveau de la science, c'est le genre de monde qui fonctionne le mieux dans une ontologie métaphysique chrétienne. Je m'explique. Je disais que les gens sont plus réductionnistes. Ils vont plus essayer de tout ramener au plus bas niveau matériel. Les gens vont parler d'émergence, mais les gens vont pas non plus parler juste de choses irréductibles, comme tomber dans une mythologie platonicienne ou peut-être bouddhiste où tout émane de l'être suprême, puis ultimement la matière est un genre d'illusion. Ce qu'on semble vraiment trouver, là, c'est qu'il y a toujours un commerce réciproque on peut dire entre le ciel et la terre, là, entre les structures puis la matérialité potentielle. Donc, par exemple, tu peux le dire très rapidement, là, dans, on commence avec les cellules dans notre corps, mettons. Les cellules ont un impact sur ce qui se passe au niveau de mon corps entier. Il y a plein de possibilités dans mes cellules. Puis c'est vrai que je ne peux pas juste exister sans mes cellules. Il y a plein de processus, c'est vrai, que je peux expliquer à cause de ce qui se passe dans mes cellules. Mais je n'ai pas aussi non plus le choix de regarder des systèmes complets d'organes ou de corps complets pour comprendre ce qui se passe dans les cellules. Fait qu'il y a un impact de la forme du corps sur les cellules qui sont la matière. Puis il y a aussi un impact, on peut parler émergent, des cellules vers la forme de mon corps. Fait que les gens vont parler d'émergence puis d'émanation. Ils vont dire, OK, il y a de l'émergence du bas vers le haut, puis il y a de l'émanation des formes vers le potentiel. Puis, classiquement, si tu regardes la plupart des mythologies, en fait, là, tu vas tomber soit juste l'émergence ou juste l'émanation. Fait que les matérialistes ont tendance à dire que, ben, en fait, tout ce qui existe, c'est la matière, puis les formes, c'est un genre d'illusion. Puis inversement, la plupart des systèmes philosophiques complexes, là, anciens, ont tendance à être plus purement émanationnistes, à ne pas donner vraiment de valeur à la matière puis à l'émergence. Mais tu n'as pas ça dans le christianisme. Il y a plusieurs places où tu as ça, là, justement. Il y a plusieurs places dans le christianisme où tu as un mariage entre l'émergence et l'émanation. Mais on peut commencer un exemple frappant, là, c'est dans la Genèse, là, quand Dieu ramasse la poussière du sol pour faire un corps pour Adam. Puis après ça, il souffle le souffle dedans qui va être l'âme, va être la forme d'Adam. Donc, tu as l'émergence de la matière à partir de la poussière, l'émanation de la forme à partir du souffle. Tu as évidemment comme l'image ultime de ça dans l'incarnation où Dieu, qui est en dehors même de la potentialité puis des formes, qui est le créateur des formes puis de la potentialité, vient s'unir à toutes ces étapes-là, à toutes ces strates-là de la création pour les réconcilier avec Dieu. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait dire dans le christianisme. Même l'exemple ultime, justement, pour mentionner ce que tu avais dit, c'est l'incarnation, là, où tu as la multiplicité puis l'unité ultime sans réduire l'un à l'autre. On n'essaie pas d'avoir juste l'émanation, juste l'unique d'où tout vient. On n'essaie pas d'avoir juste la multiplicité matérielle dont émergent des choses mystérieusement. On a comme les deux. Tu as ça dans la Trinité, tu as ça dans l'incarnation, tu as ça dans la relation entre Dieu et le monde aussi. Donc, je pense que si tu regardes notre meilleure théorie sur comment le monde naturel fonctionne, tu vois que la métaphysique qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose de chrétien. Donc, oui, c'est normal, je pense que les propositions chrétiennes comme la Trinité, l'incarnation, etc., ce soit des choses qui sont choquantes de prime abord, mais je pense que c'est vrai pour toutes les bonnes théories au début. Un exemple dont je parle dans le livre, en fait, j'en parle souvent, ben, je pense que c'est le meilleur exemple, là, parce qu'aujourd'hui, on est pas mal tous d'accord avec la gravité de Newton. T'sais, on comprend l'idée de la gravité, c'est comme trivial, ben oui, ça, les objets lourds, ça s'attire ensemble à distance, on a la loi GMV, on est capable de donner la loi puis tout prédire plein de choses. Là. À la limite, on a des formulations plus précises avec la relativité générale, mais tu sais, on reste que globalement, on est d'accord avec l'idée de la gravité. Sauf que quand Newton a amené cette idée-là, les gens pensaient que c'était un cinglé. Parce que les gens, à l'époque, étaient tous mécanistes en science. Ils pensaient que dans le monde matériel, les choses font juste comme se tirer puis se pousser. C'est juste ça qui existe. Puis là, il n'était pas capable d'expliquer certaines choses, comme l'orbite de certaines planètes. Puis là, Newton arrive avec une théorie alternative qui apporte quelque chose de weird. Une force à distance, la gravité. Fait que c'était une théorie choquante. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en prenant pour acquis cette théorie-là, les gens étaient capables d'expliquer plein d'affaires dans le monde matériel après. Puis, pas faire plus d'erreurs qu'avant. T'sais, on a su après qu'il y avait encore des erreurs avec Newton, mais il faisait aucune erreur de plus que les systèmes précédents, puis il expliquait plus d'affaires. Fait que les gens ont dit, ben, clairement, c'est vrai. Puis là, la gravité, c'est devenu quelque chose de naturel. On pense que, ben oui, ça existe, c'est pas étrange. Mais je pense que les vérités du christianisme, ça va fonctionner de la même façon. Où, de prime abord, on accepte comme parfois, comme les gens avaient foi en Newton, OK, mettons que je te dis que tu as raison avec la Trinité, l'incarnation, etc. Mais qu'est-ce que ça me donne après dans le monde? Qu'est-ce que je peux réussir à expliquer? Et justement, je pense que tu peux expliquer plein de choses comme le fait que la nature est stratifiée puis que tu n'as pas juste un émanationniste pur qui vient de l'un puis là, la matière est une illusion où les cellules n'auraient aucun impact, mettons, sur notre corps. Puis tu n'as pas non plus juste un émergentisme pur où il n'y aurait comme aucune cohérence structurelle à notre corps en soi qui aurait une influence ensuite sur en bas. Donc, il y a d'autres éléments, puis j'en couvre plusieurs de ce type-là dans le livre, mais je pense qu'il faut voir les vérités profondes comme des choses qui sont choquantes, là, qui prennent une certaine foi au début. Ben, surtout pour les vérités ultimes, ça va tout le temps prendre une foi, mais au moins une certaine quantité de foi pour ensuite voir qu'est-ce que ça éclaire dans le monde. Puis après, ben, là, t'as la foi. Là, la foi atterrit dans toi puis dans ta compréhension du monde.
Hmm. Puis tu sais, au niveau, en plus, si tu parles avec quelqu'un qui donc qui croit pas aux anges, tu sais, c'est un truc simple. Là. C'est, tu peux amener une personne à comprendre qu'il y a des volontés non individuelles qui contraignent son comportement. T'sais, on a tous des réalités non individuelles qui agissent sur nous. T'sais, des familles, des villes, des lois. Il y en a plein. Là, notre patron.
Le Père Noël.
Oui, le Père Noël en particulier. Puis, tu sais, je veux dire, c'est-à-dire la réalité des anges, c'est une réalité que les gens vivent constamment à tous les jours, sans arrêt. C'est juste qu'à cause qu'il y a juste une sorte de voile devant leurs yeux, tu sais, puis d'utiliser des exemples qui sont plus immédiats, comme l'idée de dire que, tu sais, il y a un état qui a une volonté, puis qui contraint ton comportement, tu sais, qui te force et qui t'amène à agir d'une certaine façon, bien, tu sais, c'est quelque chose que tu vis avec. Mais tu sais, c'est ça un ange. C'est un médiateur d'intelligence sur les êtres humains. Puis un démon, c'est la même chose. C'est juste que le démon, il t'amène à... Quand quelqu'un est pris par un péché, puis ça le mène à cette destruction, tu peux reconnaître le comportement dans quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, quelqu'un qui devient, je sais pas moi, un addict d'une drogue, mais il va exercer un comportement qui est similaire à l'autre personne qui devient un addict d'une drogue, puis à l'autre personne, puis à l'autre personne, puis à l'autre personne. Mais tu sais, il faut que tu sois capable de le comprendre, ça. Il faut que tu sois capable de voir qu'il y a une réalité qui est au-delà de l'expérience individuelle de la personne, qui contraint son comportement vers des résultats. Mais la meilleure façon de comprendre ça, c'est de le comprendre comme une sorte de volonté transpersonnelle qui veut quelque chose, puis qui agit sur les autres. Puis le problème, c'est que les gens le font de façon informelle tout le temps. T'sais, écoutez les gens, vous allez voir, ils vont le faire de façon informelle. Parce qu'ils reconnaissent des gestes que les êtres humains font, puis ils reconnaissent les résultats, puis ils voient que c'est similaire à d'autres choses que les gens font. T'sais, pensez à l'anorexie, par exemple. T'sais, c'est un super bon exemple. Tout d'un coup, il n'y en avait pas d'anorexique au 19e siècle. Là. Ça n'existait pas. Puis là, tout d'un coup, une génération de femmes plein d'anorexie partout. Puis l'anorexie, on la reconnaît. On dit, les gens agissent d'une certaine façon, ça a certaines conséquences, ça mène les gens à leur destruction, mais ils continuent de le faire. Mais ça, c'est une volonté, ça veut quelque chose. Puis tu sais, comme je dis, tout le monde font affaire à ces choses-là toujours. C'est juste qu'à cause qu'on est comme un voile devant les yeux, ils ne voient pas. Puis la même chose avec la liturgie, c'est un autre exemple qui est vraiment simple. Les gens engagent dans la liturgie tout le temps. Tout le monde existe dans un monde liturgique. Tu ne peux pas l'éviter parce que tous les gestes que tu fais ont un ordre et un but. Quand tu te brosses les dents, tu le fais d'une certaine façon. Tu peux pas, si tu te brosses les dents avec du ketchup, ça ne marche pas. Il y a un ordre rituel à nos gestes. Puis c'est dans tout ce qu'on fait, on a un ordre rituel à nos actions. Quand on fait un repas en famille, il y a un ordre rituel à le repas en famille. Puis si vous ne le croyez pas, essayez de faire le contraire. Vous allez voir ce qui arrive. T'sais, juste pendant un repas familial, faites juste vous coucher sur la table une fois. Okay? Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir, vous allez casser le rituel. Puis les choses vont désagréger. Notre vie est pleine de liturgie. Fait que quand les gens s'arrêtent, t'sais, quand les gens voient un policier qui est habillé en uniforme puis trouve que c'est normal... Mais il voit le pape avec une tiare et tout, puis il trouve, ça c'est donc ben imbécile, c'est donc ben stupide d'avoir quelqu'un qui porte une soutane ou quoi que ce soit. Mais ça a l'air de pas te déranger quand tu vois un policier qui porte un uniforme. Ça, c'est liturgique, c'est la même chose. T'sais, c'est vraiment un geste liturgique, c'est une façon ordonnée de faire les choses vers un but. Puis la liturgie, c'est ça, mais à un niveau plus haut. Si quelqu'un est capable de fêter la Saint-Jean, puis d'être content de voir son drapeau, puis de chanter « Mon cher pays », bien, c'est liturgique. C'est juste que nous, on le fait pour la source infinie de l'univers. C'est ça la différence. Vous le faites pour votre nation, puis c'est correct, c'est bon, faites-le. Mais nous, on fait aussi pour la source infinie de l'univers. Puis on s'ordonne ensemble pour agir, puis pour célébrer la chose qui est la plus élevée. D'ailleurs, on va en parler tantôt, c'est ça.
Je pense que j'ai vu monsieur derrière en premier.
Je crois.
Ouais, c'est bon. La question, c'est sur la théorie de l'évolution, comment je vois ça. Il y a des chrétiens qui voient ça des deux côtés. De mon bord, avec l'histoire que je mentionnais tantôt à Simon d'émergence et d'émanation dans l'univers, j'ai aucun problème à dire que l'évolution s'est produite matériellement, qu'il y a eu une émergence progressive vers l'humain, puis ensuite vers l'incarnation, puis qu'en même temps, tu avais l'émanation de formes de plus en plus riches. On passait de juste au début une poignée de particules subatomiques une énorme quantité de particules toutes petites subatomiques qui se sont progressivement complexifiées en formes de plus en plus riches jusqu'à faire des plantes, des animaux, à un moment donné des humains. Donc il y avait toujours des formes, disons, plus complexes qui atterrissaient, strate par strate. Puis la chose la plus complexe qui a atterri dans l'univers comme forme, comme source des formes, c'était Dieu, c'était Jésus dans l'incarnation. Puis le fait que dans l'incarnation, on respecte la place de l'émergence, on respecte la place du monde naturel en face de Dieu, puis qu'on veut une union des deux, pas une annihilation du monde dans Dieu. Ça fait que j'ai pas de problème à dire que matériellement, l'évolution s'est produite, puis que pendant tout ce temps-là, on avait une progression d'émergence vers l'incarnation où tout le monde, toute la nature est attirée dans Dieu. Donc, en fait, je pense que je trouve ça plus beau si quelque chose comme l'évolution s'est passé.
Moi, j'ai tendance à dire, un peu comme Jean-Philippe a dit, que je pense que l'évolution, de la façon à peu près que les gens la décrivent, ça s'est produit, mais je crois certainement pas à l'évolution. C'est-à-dire, c'est pas dans ça que je mets ma confiance, c'est pas dans ça que je mets mon histoire. L'évolution, la description du développement des formes biologiques sur la Terre, te dit absolument pas comment vivre. Te dit absolument pas ce qui est important. Tu ne dis pas comment t'orienter dans le monde. Les histoires qu'on a dans la tradition chrétienne, le texte dans Genèse 1, décrit une bien meilleure origine de l'univers. Il ne décrit pas une origine scientifique, pas du tout. Le côté scientifique, on peut le laisser aller, puis c'est bon, ça ne dérange pas. Mais moi, j'ai tendance à prioriser le texte dans la Genèse, parce que le texte dans la Genèse, il nous offre une vision d'un monde dans lequel on peut exister. Il nous dit c'est quoi notre place dans ce monde-là, c'est quoi notre fonction, c'est quoi qu'on doit faire, qu'on est le jardinier, qu'on est celui qui nomme les animaux. Toutes ces choses-là qui sont nommées dans le texte de la Genèse, ils sont beaucoup plus importantes à comprendre que de savoir là, t'sais, quelle bébite s'est reproduite avec quelle autre bébite pour amener à quoi que ce soit. Tu sais, j'ai rien contre, je veux pas trop dénigrer ça. C'est intéressant, mais c'est moins important que ce que la Genèse décrit.
J'ajouterais peut-être un truc aussi. Là, on en a parlé beaucoup dans le podcast francophone sur Genèse 1 et Genèse 2. Là. C'est intéressant que tu aies deux récits de la création où le premier ressemble plus à l'évolution, là, où le monde est créé comme strate par strate jusqu'à temps que tu arrives à l'humain qui vient tout relier. Fait que tu peux voir comment, OK, matériellement, l'humain peut arriver en dernier, mais dans Genèse 2, l'homme est créé pratiquement en premier. Je pense qu'il y avait juste comme...
je ne me rappelle plus. C'est l'homme écrit en premier.
Presque rien, là.
Non, ça dit qu'il n'y avait rien, que l'eau arrosait la terre, puis que là, Dieu a pris la poussière puis a créé l'homme. Ça dit avant même qu'il y avait des plantes. Ça dit, fait que, t'sais, l'homme, à ce moment-là, est la première création.
Puis c'est intéressant parce que ça montre que, OK, même, mettons, si on arrive dernier matériellement, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un rôle premier au niveau du but de la création puis de la façon dont on va, après ça, créer à travers nous. Donc, Dieu souffle dans Adam pour qu'il vienne en vie, mais ensuite, Dieu amène les animaux à Adam, puis là, Adam souffle dessus, mais il leur donne un nom, puis là, c'est ça qui vient finir la création des animaux. C'est comment nous, on les rentre dans des structures plus élevées. C'est comme ça qu'on vient parachever la création. Donc, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait une évolution comme dans Genèse 1, puis que l'homme a une place spéciale, puis que les formes passent à travers lui comme dans Genèse 2.
L'autre, c'est moi, j'ai un voisin qui est pompier, qui est sûrement comme une compréhension secondaire, c'est le
Ouais, ouais. Ben, c'est une bonne question. Peut-être que je peux répondre à la première, puis Jonathan à la deuxième, là, parce que je pense que Jonathan il est mieux placé pour répondre à la deuxième. Pour la première, je dirais, je parle pas directement de téléologie, parce que... Oui, oui, bon point. Donc, première question, c'est... Première question, est-ce que je parle de téléologie dans le livre? Téléologie, c'est l'idée que les choses ont un but. Donc, c'est évident pour des choses humaines, là, comme le but du micro, c'est que je parle puis que vous m'entendiez. Mais est-ce que tous les vivants ont un but? Bon, peut-être de se reproduire, etc. Est-ce que l'univers entier a un but? Ben, ça, c'est une question, puis pas tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, est-ce que je parle de ça dans le livre? Puis la réponse, c'est pas directement. Parce que je sais justement qu'il y a beaucoup de gens en science qui sont mal à l'aise d'en parler directement, mais ils n'ont comme pas le choix d'en parler. Comme dans la question, justement, il y avait une bonne blague. Là. La théologie, c'est comme la maîtresse de tous les biologistes, parce que tu n'as pas le choix de parler de théologie quand tu travailles. Puis même pas juste ça, tu sais, en physique, ben, l'électron veut être proche des protons, puis il ne veut pas être proche des autres électrons. Ça va toujours revenir ce langage-là, que les choses vont vers certaines choses, puis ils vont pas vers d'autres choses. Le langage théologique revient tout le temps. Mais c'est tellement comme le saut entre la théologie puis Dieu est tellement proche que je pense que les gens sont souvent mal à l'aise d'en parler trop vite. Fait que ce que je fais à la place, c'est une approche indirecte là, où je parle beaucoup de causes formelles. Puis à travers ça, je pense que les gens vont comme naturellement voir qu'il y a toujours une cause finale, un but, une téléologie derrière chaque cause formelle. Puis je pense que le langage du naturaliste aujourd'hui, qui parle de causes formelles, est rendu tellement riche que c'est possible d'aller articuler l'incarnation comme ça, sans parler directement de but, mais que les gens comprennent quand même que le but de la création, dans le fond, c'est l'incarnation. Fait un peu comme... si tu regardes, mettons, en philosophie, les platoniciens ne parlaient pas directement de téléologie autant directement qu'Aristote, mais tu avais quand même moyen d'être un chrétien platonicien qui exprimait le christianisme dans le langage du platonisme, mais j'essaie un peu de faire la même manœuvre. Puis je pense qu'à la fin, les gens vont trouver naturel l'idée que les choses ont des buts, y compris que le but de la création, c'est Dieu. Mais je le fais pas directement, fait que je pense qu'il y a plus de chances que les gens lisent l'argument au complet. Puis la deuxième question, là, c'était pour Jonathan. Là, je parle de façon assez abstraite à des scientifiques, du matérialisme, comment ça s'écroule, etc. Mais comment t'expliques ça à ton voisin qui, lui, a pas autant d'éducation scientifique puis qui est comme spontanément matérialiste quand même?
Oui, ça, on a comme un... C'est vrai que ça, c'est un gros problème. Là. C'est-à-dire que au moment où le matérialisme puis un genre d'athéisme intellectuel est en train de totalement être érodé, là, il y a plus vraiment de place pour ce type de pensée-là, bien, c'est au moment aussi où cette forme de pensée-là atterrit là, chez les paysans, là, dans la culture générale. Fait que c'est pas facile de répondre à ça. C'est sûr que j'ai l'impression que il y a une partie qui est un travail à long terme, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, puis je pense que c'est ça qu'on va voir, c'est que les gens qui se convertissent au christianisme en ce moment, c'est, en général, c'est une élite, en fait. Puis moi, c'est ça que je vois dans mes milieux, puis ce que je vois, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les gens qui se convertissent au christianisme, c'est une élite intellectuelle. On va voir les fruits de ça dans les prochaines décennies. Mais entre-temps, une des choses que je pense qui peut désamorcer les gens normaux qui pensent à ça, c'est que souvent, ils vont dire des choses comme, ben, t'sais, le sens est une illusion, t'sais, on croit juste que c'est des particules qui frassent ensemble, t'sais, ton cerveau, c'est juste de la chimie de toute façon et tout. T'sais, moi, en général, j'aurais tendance à pas argumenter contre ça au début, mais plutôt d'essayer de demander à la personne si elle est capable de voir l'utilité de l'illusion. T'sais, est-ce que tu vois l'utilité de l'illusion? C'est-à-dire, tu me dis qu'aimer ton enfant, c'est juste des produits chimiques dans ton cerveau. Est-ce que tu peux comprendre l'utilité de l'illusion que tu as que tu aimes ton enfant? T'sais? Est-ce que tu es attaché à cette illusion-là? Ou est-ce que tu es dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu agis vraiment comme si c'était juste des produits chimiques dans ton cerveau? Puis essayer de briser, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui vit dans le matérialisme. C'est juste impossible de vivre dans ça. C'est essayer d'aider la personne à voir qu'en fait, elle ne vit pas du tout dans ça. Puis c'est commencer en disant, ben, au moins voir l'utilité de ces affaires-là, l'utilité des histoires, l'utilité de... Puis tranquillement de réaliser que ben, s'ils sont utiles, à un moment donné, c'est peut-être parce qu'ils sont vrais. À un moment donné, mais c'est pas évident.
Patrick?
De la vision de la sexualité dans le christianisme. pas s'il y aurait d'autres idées que, qui pourraient servir, disons, en utilisant le symbolisme pour vraiment montrer que c'est comme le jour et la nuit.
Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est en effet un outil qui peut être vraiment utile. Tu sais, un des trucs qui est intéressant à pointer puis à montrer aux gens, c'est que, tu sais, dans le monde séculier, quand on arrive à la fin du monde séculier, il y a comme une sorte de parodie religieuse là, qui s'installe, où là, tout d'un coup, les gens commencent à faire des gestes de chasteté, des gestes de... Tu sais, t'as tous les gym bro, là, tous les genres de super T, là, testostérone guys, là, tu sais, qui réalisent, en fait... Que la chasteté, ça l'aide au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'il y a comme un effet positif au niveau de la, du focus, d'un certain niveau normal d'agressivité qu'un être humain doit avoir. Qu'en fait, la chasteté, ça mène à ça. Même chose avec l'idée de jeûner, par exemple. Tu vois toutes les gens qui sont tous, qui parlent de santé, puis tout ça, sont tous en train de parler de jeûner. Il faut tous jeûner pour des raisons de santé. T'sais. C'est comme le même type de personne qui s'est moqué de nos ancêtres qui jeûnaient deux fois par semaine. Bien là, ils leur disent à peu près la même chose aujourd'hui. Là, t'sais, ce serait bien de jeûner. J'ai l'impression que de montrer que comme qu'on peut juste pas l'éviter là, on revient juste naturellement à ces pratiques là, c'est pourquoi pas les intégrer dans quelque chose qui a plus de sens que juste combien de testostérone que t'as ou de quoi t'as de l'air physiquement là.
Je pense qu'il y avait quelqu'un là-bas depuis longtemps. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense des attaques démoniaques récemment?
Non, mais ça va être quoi leur dernière tentative pour changer le monde à
leur mort? OK, OK. Je pense que je vois un peu la question. Là. Ben, peut-être que tu fais allusion aussi à un genre de mouvement qui gagne quand même en ampleur dans les milieux intellectuels. Ben, en fait, dans la culture en général, c'est de plus en plus reconnu. Là. Maintenant que le matérialisme s'en va, il y a... plein de spiritualités qui reviennent. Donc, comme j'ai dit plus tôt, là, moi, quand j'ai arrêté d'être matérialiste, je ne suis pas automatiquement devenu chrétien. Il y a plein d'options. Là. Quand tu n'es pas matérialiste, tu peux être toutes sortes de païens. Fait que c'est une des choses qui revient. Là. Des gens prennent des psychédéliques, puis là, ils voient des êtres là, qu'ils ne connaissent pas trop. Puis là, ça leur ouvre les yeux sur le fait que le monde, ce n'est pas juste matériel. Puis ils vont peut-être en prendre d'autres. Ils vont peut-être aller parler à d'autres personnes, partir sur leur propre chair. Il y a des gens qui pratiquent aussi comme leur propre pseudo-religion, qui essayent de rassembler. D'ailleurs, tu sais, il n'y a jamais eu tant de purs athées que ça. Là, si tu regardes les statistiques, la plupart des gens qui se désaffiliaient religieusement devenaient spirituels, mais pas religieux. Ils construisaient comme leur propre genre de compote de différentes spiritualités pour eux-mêmes. Puis, souvent, c'est quand même bénin, mais... c'est quand même documenté, là, ça sort de plus en plus, notamment le dernier livre de Roger, Living in Wonder, il en parle, là, où des gens finissent par rencontrer des fois, au moins, des entités comme explicitement démoniaques en suivant ce genre de parcours-là. Puis, ça, c'est le genre de choses qui va sûrement s'accélérer maintenant que le matérialisme n'est plus là, parce que le matérialisme, c'est un genre de bouclier quand même. Là. T'as besoin d'avoir quand même un certain genre de foi dans des entités pour être capable de les percevoir. Si je résiste vraiment fort pour... pas croire au fait que, mettons, ma femme m'aime, ben, tu sais, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas, je le verrai pas. Mais pour plein de choses subtiles comme ça, il faut que tu aies un certain genre de foi dans ces choses-là. Puis, le matérialisme coupait tellement toute influence spirituelle qu'il y avait une genre d'immunisation qui se fait là, comme des histoires, par exemple, d'anthropologues qui allaient visiter des tribus en Afrique ou en Amérique du Sud. Puis là, les gens se lancent des sorts là-bas. Puis des gens meurent pour vrai. Là. Ils se lancent des sorts puis ils meurent. Mais l'anthropologue, lui, se fait lancer des sorts puis ça fait rien là, parce qu'il pense que c'est de la bullshit. Mais s'il fait juste dire aux gens que tu te fais lancer un sort, c'est pas vrai, ça fait rien. Là. La personne doit mourir pareil. C'est plus compliqué que ça. Là. Si la personne est ouverte à des influences comme ça, ben, il faut que tu deals avec ces influences-là au niveau qui existe. Mais maintenant que plein de gens se débarrassent de leur matérialisme, ben, ils vont être plus en proie à des attaques comme ça. Donc, Living in Wonder, c'est un bon livre pour en parler. Là.
Oui. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le monde qui s'en vient, tu sais, quand je vous disais tantôt, tu sais, dans le fond, le monde de l'avenir, c'est un monde religieux, c'est pas un monde athée, c'est pas un monde matérialiste, c'est pas un monde séculier. Mais ça veut pas nécessairement dire que tout de suite, ça va être un monde chrétien. Il y a beaucoup d'options. Puis, tu sais, il y a aussi l'espèce d'étrange relation entre ce qui se passe avec l'intelligence artificielle puis une sorte de reprise de conscience de la possibilité d'intelligence non humaine. La même chose avec les... Tu sais, il y a comme trois vecteurs là, de retour à l'intelligence non humaine pour les gens matérialistes, les psychédéliques, comme Jean-Philippe a dit, l'intelligence artificielle puis les extraterrestres, là, les trois vecteurs où il y a comme une sorte de fascination avec l'idée d'intelligence non humaine. Puis on le voit depuis même plusieurs décennies, surtout le côté psychédélique puis extraterrestre, il y a comme une sorte de vernis religieux sur cette affaire-là étrange, là, où les gens ils vont connecter cette espèce d'idée-là d'être non humain avec la notion d'ange ou d'esprit ou de je ne sais pas quoi. Fait qu'il y a comme une curiosité envers l'idée d'intelligence non humaine. C'est tout croche, c'est n'importe quoi, mais c'est sûr que ça va s'amplifier là, avec le temps.
Oui? Ben, les structures. La question, c'est quoi une structure, puis pourquoi est-ce qu'on voit mieux les structures dans une histoire de zombies que dans d'autres histoires? Ben, d'abord, c'est pas les seuls récits où on peut voir des structures qui sont importantes puis qui sont là dans notre monde. N'importe quelle histoire qui va attirer l'attention de beaucoup de personnes va être en train d'aller identifier des structures qui sont analogues à ce qu'on a dans nos vies tous les jours. Fait que, en anglais, le mot « pattern », c'est bon, là, parce que c'est quelque chose qu'on utilise spontanément en anglais. En français, il n'y a pas d'exact mot exactement pareil. Là. Structure ou forme, ça peut faire un peu le travail, mais ce n'est pas exactement pareil. Par structure, ce que je veux dire, c'est une structure abstraite, là, donc un genre de... Pense à un mécanisme, mais abstrait. Là, ça n'aide pas tant que ça que je parle de ça. Mettons un...
Non, mais on peut... Une façon simple de dire, c'est que une structure, c'est quelque chose qui organise la multiplicité vers un but ou vers une identité. Okay? Fait que disons que toutes les choses qu'on voit dans le monde, ils sont faites de multiplicité, là, même les objets, le micro. Il y a plein de morceaux de ce micro-là, mais il y a une structure, c'est-à-dire il y a un pattern par lequel les choses sont mises ensemble pour arriver à l'identité puis au sens, le but de ce micro-là. Okay? Fait que ces structures-là, c'est la façon dont les choses sont organisées envers leur but. Fait que la structure d'une organisation, d'une compagnie, ben c'est une façon qu'on prend les gens, on les met dans une certaine relation entre eux pour accomplir le but de l'organisation. Mais dans une histoire, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans une histoire, c'est plein de faits, de choses qui se sont passées. Puis là, ce que je sais, c'est que je les mets dans un ordre. Puis aussi, je choisis certains faits, là, parce que, tu sais, je veux dire... Je pourrais parler de plein d'autres affaires à part les choses que j'ai choisi de mettre dans un ordre. Je choisis des faits, je les mets dans un ordre cohérent qui mène à la capacité de voir ça comme un récit. Je ne sais pas si tu comprends. T'sais, c'est ce qui donne l'unité à la multiplicité, c'est ce qu'on pourrait appeler le pattern ou la structure.
Maurice? La question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que on a un genre de vision voilée du monde qu'on ne voit pas toutes les structures dont on est en train de parler. Ça, j'en parle un peu dans le livre, là, parce que c'est quelque chose qui est étudié en psychologie, notamment en psychologie développementale. Comment on développe notre capacité à percevoir des structures? Puis c'est pas juste vrai pour des structures complexes, morales ou narratives, là, c'est vrai même pour des structures simples, physiques. Là. Comme j'entends parler du micro, mais les bébés, ils peuvent pas voir les micros. Là. Ils voient surtout du chaos. Puis ça prend de la pratique pour que les enfants réussissent à mettre de l'ordre, voir les patterns, voir les structures dans les choses qui les entourent pour être capable de vraiment voir des objets, des personnes, etc. Ça prend du temps aussi pour qu'ils réussissent à ordonner leurs émotions, genre leurs proto-émotions en émotions authentiques, là, qui sont des structures de, je sais pas, plaisir, douleur, etc., qui sont cohérents, qui peuvent se suivre, s'harmoniser dans des récits qui font du sens, au lieu d'être juste un chaos d'émotions positives, négatives, etc. C'est quelque chose qui doit s'apprendre, se développer. Puis ensuite, la perception morale aussi. Donc, nos vices et nos vertus, nos capacités à voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est quelque chose qu'on développe. Puis il y a plusieurs théories intéressantes là-dessus. Je parle de certaines dans le livre, mais c'est définitivement vrai que, comme Platon ou Aristote l'auraient dit, pour grandir en vertu, il faut qu'on essaye de grandir en vertu. Avoir des guides qui peuvent nous aider, ça va aider aussi. Puis on va mieux percevoir les structures morales qu'il y a dans le monde ensuite avec ça. Puis, tu sais, un exemple, là, c'est... Il y a plein de gens que je connais qui ont lu Dostoïevski, puis ça a complètement changé la façon dont ils identifient certaines structures morales dans le monde. Ils n'ont plus jamais pensé, mettons, que le mal, c'est une illusion. Ils n'ont plus jamais pensé que faire tel acte spécifique qu'avant, il y avait peut-être tendance à faire, était une bonne chose. Maintenant, ils voient que cette structure-là morale existe, elle est mauvaise, ils l'identifient dans eux-mêmes. Puis le fait que Dostoïevski ait réussi à nommer ça, ça a comme réordonner leur perception des choses. Mais il n'y a pas de solution super simple à ça. Il faut juste comme toujours essayer de s'améliorer à mieux percevoir les structures. Puis essayer de se faire corriger dans la mesure où on est capable, puis on va s'améliorer. Ouais.
Ben, c'est ça, il y a une réponse aussi qui est plus difficile, là, qui est plus plate. Là. C'est-à-dire, c'est de devenir un exemple. C'est ça. Jésus, il dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, puis les saints, ils brillent. Donc, je veux dire, ils apparaissent comme des lumières. Là, les gens voient la différence. Quand tu rencontres quelqu'un qui est libre de ses péchés, ben, ça paraît. Puis ça dérange certaines personnes, puis ça l'attire d'autres personnes, mais quand tu vois quelqu'un qui vit vraiment dans l'amour du Christ, c'est comme ça brille. Fait que tu sais, honnêtement, c'est plate à dire, là, mais une des choses qu'on peut faire, c'est ça. C'est-à-dire de faire ce que la Bible a dit finalement, là, c'est d'arriver à la stature parfaite du Christ, c'est d'avancer vers lui, d'apprendre à aimer, puis ça, d'une certaine façon... Parce que les gens, en général, on peut parler, puis moi, c'est ça que je fais dans la vie, là, je parle des choses, mais les gens, ils suivent des exemples. Dans la réalité, là, en général, on suit des gens qui sont un exemple de quelque chose, puis on peut argumenter autour, mais quand on voit quelqu'un qui a quelque chose de vrai, on peut pas le nier. Fait que c'est peut-être un appel à la sainteté pour nous tous, là, c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire.
C'est étudié, ça, d'ailleurs. Hein? C'est le meilleur prédicteur pour savoir si quelqu'un va être religieux ou non, c'est pas, disons, à quel point il pense de façon rationnelle ou des choses comme ça, là. C'est est-ce qu'il y a des figures d'autorité autour de lui qui respectent qui sont religieux? Donc, s'il y a des gens qui font des choses que tu comprends pas, là, peut-être que Jonathan va faire des rituels que je comprends pas, mais je respecte Jonathan, là, il y a vraiment plus de chances que je sois religieux que si je connais personne comme ça. Puis c'est ça le meilleur prédicteur, en fait. Donc, tu sais, les arguments, c'est important, ça joue un rôle, mais d'être un exemple, faire des choses qui sont étonnantes, mais qu'on est quand même respectable, c'est ça quand même qui semble le plus prédire la religiosité des gens autour de nous.
Un des meilleurs exemples pour comprendre ça, c'est vraiment le film Karate Kid. Je ne sais pas si vous avez vu le film Karate Kid. C'est vraiment génial pour comprendre ça parce que tu as un personnage, Monsieur Miyagi, il démontre aux jeunes qu'il est vraiment capable de se battre. Parce qu'il défend contre des bullies qui veulent l'attaquer. Il lui montre que vraiment, il est vraiment fort, il est capable de se battre. Puis là, le jeune, il vient et il dit, « OK, wow! Tu m'as démontré l'exemple de quelque chose d'incroyable que je veux acquérir. Je veux ça. » Puis il demande à M. Miyagi de lui enseigner l'art du karaté. Puis là, M. Miyagi lui fait des choses qui lui semblent complètement absurdes au début. Il dit, « Peinture, The fence, la clôture. Il dit, tu sais, cire les voitures. Là, il dit, il comprend rien, il n'a aucune idée. Mais parce qu'il a vu que M. Miyagi il était capable de faire ce qu'il a fait, bien, il est prêt à le suivre. Il est prêt à faire l'effort pour arriver à la discipline nécessaire jusqu'au moment où il a la capacité de comprendre les fruits des gestes. Mais il y a beaucoup de ça, heureusement ou malheureusement, dans le christianisme. C'est-à-dire, les fruits de l'Eucharistie, ils ne sont pas évidents pour la personne qui est là et qui regarde des gens manger un morceau de pain et boire du vin. Là, je veux dire, c'est quoi tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu penses que ça va t'amener vers la sainteté? Mais c'est vraiment les exemples des saints et l'exemple des gens qui sont transformés par le Christ. Puis là, de dire, bien, OK, j'ai confiance en lui. Puis lui, il me dit, va à l'église, va te confesser, va communier. OK, je vais le faire. Puis là, oh, tranquillement, là, on commence à voir les fruits, on commence à voir la transformation. Mais malheureusement, c'est pas simple parce que quand tu as besoin d'apprendre quelque chose que tu connais pas, tu le sais pas. C'est pour ça que tu as besoin de l'apprendre. Fait que je peux pas complètement t'expliquer toutes les raisons pour lesquelles tu fais les choses. Comme, trust me, bro, fais ça. Puis quand tu vas, à force de le faire, là, un moment donné, là, tu vas voir les résultats que ça donne. T'sais. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a besoin des saints. On a besoin des exemples parce que c'est vraiment difficile. C'est pas impossible, mais c'est vraiment difficile de défendre la liturgie à quelqu'un qui a juste le goût de regarder le hockey. C'est un peu dur. C'est comme, ben là, pourquoi je ferais ça? T'sais? Mais c'est ça. L'exemple, il peut aider. Là.
C'est tout le temps qu'on avait. N'hésitez pas à venir nous reparler après. Restez après parce que Jonathan va participer au lancement du numéro spécial sur la fête du Verbe. Il va parler sur, justement, la fête à 19h30. Donc là, on a un petit peu de temps de battement entre les deux événements. Merci, Jonathan, d'avoir publié mon livre. Merci aussi.
Hey, merci à toi.